pour les laïcs, donc n'hésitez pas, même si le gris domine, n'hésitez pas à arrêter, il faut quand même se faire comprendre, ou si vous avez du mal à intervenir, à faire passer un petit papier, ou à déposer un petit papier, je crois que c'est important qu'au moins on soit compris. Vous savez qu'il y a donc 3 jours, ce qui va être une épreuve, parce que c'est un véritable marathon, ce qu'on doit faire aujourd'hui, les sacrements. Demain, avec le Père Samuel, on va regarder les autres religions, le dialogue entre la religion chrétienne et les autres religions. Et ensuite, le Père Marie-Dominique reviendra sur l'Eucharistie. Donc, c'est un chemin un peu rapide. Il y a une unité que vous allez trouver. Et c'est bien que nous commencions aujourd'hui, jour de l'Ascension, parce que le lien entre l'Église et le mystère du Christ, l'Église, accomplissement du Christ, c'est un lien qu'on découvre de façon très profonde dans le sacrement. Alors, je me suis demandé un peu comment faire ce traité des sacrements, et je veux m'appuyer sur saint Thomas parce que c'est lui qui donne une vision des sacrements qu'on comprend rarement. Souvent nous regardons les sacrements comme des réalités qui ont leur sens presque en elles-mêmes. Or, saint Thomas, il regarde les sacrements à l'intérieur de la vertu de religion. Alors, c'est ça, je voudrais regarder avec vous un petit peu. Pour saint Thomas, les sacrements, ils entrent dans le culte. Dans le culte. Mais pour vous montrer que c'est pas si étranger avec ce que dit l'Église, je vais vous lire juste auparavant ce passage de Lumen Gentium. Je suis au numéro 10 donc de la grande ce grand texte du Concile, la grande constitution, n'est-ce pas, Lumen Gentium. Le Christ, Seigneur, grand prêtre, vous voyez tout de suite, le langage du culte, le prêtre, pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu. Les baptisés, voilà, sacrement du baptême, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle, un temple, et un sacerdoce saint, pour offrir, par toutes les activités du chrétien, autant de sacrifices spirituels, et proclamer les merveilles de celui qui des ténèbres les a appelés à son admirable lumière. Si on regarde bien, le baptisé, il a été consacré par Dieu pour être le temple et le prêtre. Le baptisé a été consacré par cette régénération et l'action de l'Esprit Saint pour être une demeure spirituelle, donc le temple, c'est-à-dire le lieu où le culte est rendu à Dieu. Le baptisé, il est consacré. C'est pas l'Église qui est consacrée, le bâtiment, c'est le baptisé. Et un sacerdoce saint, voilà. Et que va faire ce sacerdoce ? Offrir par toutes ses activités du chrétien autant de sacrifices spirituels pour la gloire de Dieu. Et puis, c'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange, doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu. Là, on ne parle pas de l'Eucharistie. Hein. On dit, l'exigence du baptême, c'est de s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu. Voilà l'exigence du baptême. Et alors, au numéro 11, on dit, parce que c'est donc le peuple des baptisés, on reliera l'ensemble du texte après, le caractère sacré et organique de la communauté sacerdotale, donc de l'ensemble des baptisés, entre en action, c'est-à-dire comment est-ce qu'il se réalise, comment est-ce qu'il entre en action, ce caractère, eh bien, par les sacrements et les vertus. Donc, si vous voulez vivre de l'exigence profonde du baptême, vous avez besoin des sacrements et des vertus. Alors, c'est sûr que c'est une approche qui va être un peu nouvelle, et c'est pas quelque chose qui, comme tel, peut être devenir du catéchisme. Je fais un peu de théologie ici. La catéchèse va consister à permettre aux jeunes d'entrer dans ce que nous voulons toucher, nous, maintenant. Mais c'est sûr que aux jeunes, il faudra prendre deux chemins différents de ceux que l'on va prendre ensemble. Alors, c'est pour dire, il s'agit de toucher la réalité des sacrements, puis ensuite, on conduira les gens de là où ils sont vers là où il faut les mener. C'est ça la pastorale ou la catéchèse. Et nous, nous regardons le donner de foi. Et après, l'ayant bien saisi, on pourra mieux comprendre le chemin par lequel je peux éduquer au sacrement. Mais c'est sûr que vous allez voir tout de suite que cette option que donne le Concile, mais qui n'est pas nouvelle, parce qu'elle est donnée par saint Thomas, et je vais vous le montrer maintenant, donne au sacrement, à mon avis, un regard tout autre que celui que l'on a en général. Alors maintenant, regardons ce qu'est la vertu de religion dans saint Thomas. Qu'est-ce que c'est que la vertu de religion ? Cette qualité de l'âme humaine, il a la vertu. C'est un homme religieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un homme religieux. L'homme est une créature. Cette créature, elle reçoit tout de Dieu. Il est donc de justice de reconnaître ce qui est dû. Si je reçois tout, c'est que j'ai une dette. Parce que je reçois tout gratuitement. J'ai une dette. Et par conséquent, il est de justice, c'est-à-dire, c'est la vertu primordiale et fondamentale de toute relation entre deux personnes. Et ici, il s'agit entre l'homme et Dieu. Il est de justice de reconnaître que j'ai tout reçu de lui. Ça, c'est une vertu, ça, c'est la vertu de justice. Alors, qu'est-ce que c'est que la religion ? La religion, c'est quand ? C'est la justice à l'égard de Dieu. Mais c'est une vertu spéciale qui n'est pas la justice. C'est par la religion, l'homme rend tout à Dieu. Saint Thomas a une très belle définition. La religion inclinant l'homme à rendre à cet autrui qu'est Dieu ce qui lui est dû est une vertu. Rendre à Dieu, parce que la justice c'est rendre à autrui ce qui est dû, rendre à Dieu ce qui est dû. Et la religion nous aide, c'est cette vertu, cette qualité spéciale de l'âme qui est acquise. par lequel je rends à Dieu, c'est l'esprit, n'est-ce pas ? Par mon esprit, je lui remets ma dette. Alors, vous voyez, concrètement, comme c'est une qualité de l'âme, c'est une qualité acquise, et par conséquent, pour l'acquérir, il faut faire des actes. Quels sont les actes religieux par lesquels l'homme rend son dû à Dieu ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre à Dieu, en fait, tout, puisque j'ai tout reçu de lui ? Mais moi, je dis, c'est soumettre notre esprit. Saint Thomas régule comme ça. Par l'esprit, notre esprit, puisque je reviens tout, je suis tout entier dépendant de lui, je lui soumets tout, je lui soumets mon esprit, je lui soumets tout mon être. Vous voyez, alors là, ça c'est quelque chose qu'il faut réveiller en nous, parce que sinon, tout le reste ne passe pas. Il faut qu'on commence par s'appuyer sur cette chose-là. Il est de justice, et c'est une réalité, disons, nécessaire, si je veux être vrai, avec tout mon être, de soumettre tout mon esprit, toute ma personne à Dieu. Vous voyez, là, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour faire ça. Tout homme qui sait qu'il est créé, qui sait qu'il a reçu l'être, la vie et toute chose de son Créateur, tout homme se tourne vers Dieu, vers ce Créateur, et se met dans sa main. C'est notre attitude intérieure par laquelle on se soumet à lui. Parce que ça, c'est clair. Une attitude fondamentale. Mais voyez, parce que c'est une vertu, elle est acquise. Si jamais vous avez fait ça, il n'y a pas de vertu. Il faudra faire des actes qui, petit à petit, parce qu'ils étaient difficiles, parce que c'est pas facile de soumettre son âme à Dieu. Parce qu'on est des êtres très sensibles et Dieu paraît loin. On a du mal. Alors on est obligé de faire des actes qui sont de plus en plus vrais et de plus en plus faciles jusqu'au jour où ils sont presque normaux, naturels. Je dirais à ce moment-là, vous êtes un homme religieux. Parce que vous avez cette vertu. Vous avez acquis cette vertu. La vertu, c'est cet acquis de l'âme par lequel l'âme fait facilement ce qu'elle faisait difficilement avant d'avoir la vertu. Oui. Et ça, c'est purement humain, puisque ça relève de la justice. Alors, comment cette religion s'exerce-t-elle ? Bien, cette religion s'exerce en offrant à Dieu ce qu'on appelle le culte. Le culte, c'est ce dû à Dieu. Qu'est-ce que c'est que le culte ? Vous voyez, c'est vrai pour tout homme. Les païens, ils ont un culte parce que ils offrent à leur Dieu, au Dieu qu'ils connaissent, par leur tradition, ce qu'ils ont reconnu lui devoir. Dans le culte, saint Thomas le distingue tout de suite en disant, il y a deux actes, deux types d'actes dans le culte. Il y a l'acte intérieur, et il y a l'acte extérieur. Alors là, il faut vraiment faire attention. Parce que quand on dit acte extérieur, on pense tout de suite des gestes dont je peux très bien me détacher intérieurement. Prenez le cas du baiser de Judas. Il baise le Christ, mais il n'y a plus d'amour. Parce que c'est un geste qui a pour but de montrer. Donc on détourne la signification du geste. Donc je peux faire un geste, un acte extérieur qui n'est pas de relation avec l'acte intérieur. Il est mensonger. Pour saint Thomas, l'acte extérieur suppose toujours l'acte intérieur. Sinon, ce n'est pas un acte extérieur. C'est un acte, mais il est équivoque. Il n'a rien à voir avec la religion. Donc, la valeur d'un acte extérieur va venir en partie, pas seulement, mais essentiellement de l'acte intérieur. C'est normal. Non. Cet acte intérieur, quel est-il ? Simplement, en donne deux. Je vous l'ai dit tout de suite, la dévotion et la prière. Alors là, aussi, il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est que la dévotion ? Pour saint Thomas, la dévotion est un acte de la volonté. Tandis que la prière, de l'intelligence pratique. Et je vous donne quelques petites images comme ça, mais vous verrez, ça va signifier. Patience. Pourquoi ? Parce que la dévotion, c'est cette attitude par laquelle la volonté, librement et promptement, oui, s'offre à Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, vous donnez à lui. La dévotion, ça sera cette attitude de la volonté par laquelle promptement, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de forcé, c'est un acte qui vient de moi, mais qui est habité par l'amour, quoi. Promptement, je vous tout mon être à lui. Je lui remets mon être. C'est cet acte d'amour, de volonté, par lequel, c'est cet acte intérieur par lequel je me remets tout entier à lui. Tandis que la prière, là saint Thomas ne regarde pas le contenu. C'est pas le contenu, c'est pas ce que je demande qu'on regarde. C'est l'attitude de l'âme qui prie. Quelle est son attitude quand elle prie ? Elle reconnaît que Dieu est supérieur. Sinon, elle lui ordonnerait. Ou encore, elle lui conseillerait, comme à un égal. Écoute, crois-moi, ça serait bien que tu lui donnes ceci. Je te donne un petit conseil. Non. Par la prière, je regarde celui qui m'est supérieur. Vous voyez, tout de suite, il y a un jugement. Et en plus, je reconnais que ce que je demande, je le reçois de lui gratuitement. Donc, je le lui demande pauvrement. Je lui demande avec humilité. Je lui demande, vous voyez, dans un état de vérité qui m'oblige, qui donne à la prière toute sa qualité de prière. Vous voyez, cet acte, du fait qu'il s'oriente vers Dieu, c'est l'intelligence. C'est pas pour ça que dans la prière, il n'y a pas d'amour. Dans une vraie prière, je prends exprès le langage, saint Thomas, pour qu'on comprenne. Dans une vraie prière, quand vous priez, il y a autant de dévotion que de prière. Vous comprenez ? Mais l'acte de la prière, prier au sens formel du terme, c'est reconnaître que de Dieu, je ne peux, qu'envers Dieu, je ne peux que demander, et qu'en même temps, je ne peux que demander avec une grande humilité, parce que tout ce qu'il donne, il le donne gratuitement, et moi je n'ai aucune dette, il ne me doit rien. Ça c'est un regard de l'intelligence. Je suis lucide qu'envers Dieu, je dois tout recevoir. Mais il y a aussi la dévotion, parce que dans la prière, il y a l'amour. Mais ce sont quand même des actes qui peuvent se distinguer. Alors c'est ça qui est important. Voilà la valeur essentielle de l'homme religieux. C'est celui qui, ayant découvert que Dieu est l'amour, a envers lui un amour, mais un amour prompt, par lequel il se remet tout entier. Vous ne pouvez pas donner à Dieu quelque chose. Vous ne pouvez donner que vous. Parce que même si vous donnez quelque chose, ça n'est religieux que si vous vous donnez en donnant ce quelque chose. Mais la valeur de l'acte de religion vient de la dévotion et de la prière. Ça veut dire qu'un acte par lequel vous ne vous donnez pas ne peut pas être un acte religieux. Parce que Dieu, vous lui devez tout. Ce n'est pas quelque chose, c'est tout. Sinon, vous n'êtes plus dans la justice. Alors, vous voyez, si on offre à Dieu un petit quelque chose, oh, je lui donne la dîme. C'est-à-dire, hein, une petite partie de mon capital. Je lui donne. Mais si ce n'est pas une manière de vous donner, ça n'est pas un acte religieux. Parce que la dîme, on va le voir, c'est un acte extérieur. Donc, allons aux actes extérieurs et on va voir. Mieux. Saint Thomas distingue trois types d'actes extérieurs. L'acte extérieur par lequel je me sers de mon corps. De mon corps. Il appelle ça l'adoration. L'acte par lequel je me sers des choses qui sont sous mon dominium. J'ai un cheptel, et il est à moi. Eh bien, je prends une brebis et je lui donne et je lui offre. C'est-à-dire, il donne quelque chose qui, une chose qui est sous son dominium. L'homme, au lieu de donner son corps, au lieu de se servir de son corps, il se sert de cette chose qui lui appartient. Ah, c'est ça, une réalité, une reste quelconque. Une reste qui n'est pas quelconque. Parce que si c'est celle d'un autre, c'est pas vous que vous donnez. À moins que ce soit un ami. Bon. Et enfin, cet acte par lequel on se sert de réalités qui sont données par vous. C'est ça le sacrement. Ah, ça va vous choquer, hein. Le sacrement, c'est un acte extérieur. Bon, alors revenons. Soit je me sers de mon corps et j'adore. Est-ce que c'est un dû de me servir de mon corps dans le culte à Dieu. Vous voyez la question. Est-ce que je dois me servir de mon corps? Je dois? C'est une dette? Dans mon culte à Dieu ou non? Ou est-ce que je peux m'en servir? Donc c'est un dû. Le corps nous est donné et il est un devoir de l'associer à ce culte. Et je ne suis pas libre, non, moi je prie sans mon corps, c'est-à-dire couché. C'est possible de prier couché, C'est possible. Mais il reste qu'il faudra que votre corps participe d'une manière ou d'une autre à ce dû, à cette... Parce que vous êtes âme et corps, vous êtes dans une unité qui est voulue par Dieu, et vous ne pouvez pas simplement tourner votre esprit vers Dieu sans du tout vous accepter cette unité. Vous devez vous recevoir dans cette unité, et c'est dans tout votre être que vous adorez. Par là, l'adoration, vous voyez, et c'est pour ça que souvent nous parlons d'adoration du Saint-Sacrement, l'adoration en esprit et vérité. C'est un langage qui est devenu ici un peu technique. Hein? On va parler de l'adoration au niveau théologique quand on parlera de cet acte de dévotion, cet acte intérieur qui s'incarne dans une attitude du corps, à genoux, prosterné, debout. Les mains levées. On demande auprès de lever les mains. Ça appartient au culte. Il faut qu'avec son corps, il prie. Pas simplement cassette. Non, c'est l'homme. Je ne parle pas que du prêtre à l'autel. Je parle de tout prêtre, tout baptisé. Mais là, c'est le chrétien. On va venir. Là, je suis dans le culte général. Je suis au niveau de la vertu de justice. Est-ce qu'il est dû d'offrir à Dieu une brebis de mon bercail ? Idem. La même chose. C'est dû. C'est une dette. Je l'ai reçue de lui. Quelque part, je dois pouvoir lui offrir et lui montrer que j'ai tout reçu de lui. Lui montrer par cette attitude intérieure de la vertu de religion, cette attitude qui prend tout mon âme, par lequel je lui remets ce que j'ai reçu de lui. Les sacrements, c'est plus délicat. Il faut savoir ce qu'ils font pour pouvoir demander si c'est un dû de les offrir. Mais là, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. L'homme est un individu social. N'est-ce pas ? Il y a la famille, il y a la cité, il y a l'État. Est-ce qu'il est dû qu'il offre un culte social? Est-ce qu'il est dû? Il est membre d'un corps. Ce corps fait... Est-ce qu'il est dû qu'il y ait un culte public, social, de la famille, de la cité, de l'État? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est de dette? C'est de justice. Là, évidemment, on touche un problème qui est délicat. Si l'homme, par son corps, est un être social, c'est donc selon le dessein de Dieu qu'il doit vivre en communauté. Par conséquent, il ne peut pas ne pas offrir un culte social. Ça appartient à la justice. Lui, l'homme, en tant qu'homme, il ne se reconnaît pas créature selon le plan de Dieu s'il ne va pas jusque-là. Parce que Dieu l'a fait individu social, et donc Dieu veut que l'individu qui se reconnaît membre d'un corps, avec tout le corps, reconnaisse la dimension religieuse. Dans une activité religieuse, le plan et le dessein de Dieu sur lui. Oui. Alors, il y aura l'adoration et puis il y aura le culte public. Je me mets là, mais en fait, je vais mettre acte extérieur, personnel et puis public. Est-ce que ça passe, hein, ou est-ce que ça passe pas? Oh. Si on continue, le sacrement est entendu comme un don sacré, sacramentum, sacré, donc une chose que Dieu donne. Saint Thomas prend plusieurs exemples. Il dit le sacrement, mais il prend aussi, par exemple, le nom de Dieu, le nom de Dieu. Son nom, il ne m'appartient pas, son nom. Comment se fait-il que je m'en sers? Je te le demande par Jésus. Je me sers de son nom. Et quand je jure, je me sers des choses du ciel. Alors Jésus dit, mais là, je suis dans l'activité religieuse. Je ne m'occupe pas des chrétiens. Jésus dira, ne jure ni par ta tête, ni par le ciel, ni par l'autel. Mais l'homme religieux qui, par le ciel, ça ne lui appartient pas, le ciel, ou la tête de ses enfants, ça ne lui appartient pas, jure, qu'est-ce qu'il fait? Il prend à témoin le ciel, un don, quelque chose qui appartient à Dieu, et s'appuie de cette chose pour témoigner. Il se sert d'une chose de Dieu pour prier, pour promettre. Pour... Oui. Le sacrement est un don de Dieu dont l'homme va se servir pour rendre son culte à Dieu. Mais Dieu lui donne spécialement pour ce culte, cette réalité-là, pour que l'homme rende un culte, le culte qui lui plaît. Donnez-moi des exemples. Comment est-ce que l'homme offre une brebis, une chose? J'en ai plusieurs déjà, disons. Plusieurs manières de... sacrifice. Le sacrifice, c'est une manière de prendre une chose et de l'offrir à Dieu. Ça peut être la dîme, ça peut être l'oblation, une offrande. Alors, maintenant, revenons un peu au culte public. Où intervient le prêtre là-dedans, dans ce culte religieux? Où intervient le prêtre? Chaque homme, chacun, s'il est religieux, il a des actes de dévotion et de prière qui sont au fond de son âme et qui s'extériorisent dans l'adoration, les sacrifices et toute cette vie cultuelle. Chacun, chaque homme. Qu'est-ce que vient faire le prêtre? Alors c'est ça qui est important de comprendre. C'est que le prêtre, il rentre d'abord ici, dans cette dimension publique. Que comment voulez-vous que la cité offre à Dieu un culte comme cité, en tant que cité? C'est la cité qui se tourne et prie pour qu'il pleuve, hein? Parce que qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas de choix, il faut le faire. Regardez Jonas, c'est bien, il est passé et puis d'un seul coup c'est le roi, le chef, qui fait pénitence, qui proclame le jeu, mais c'est le chef. Il faut pour que la cité offre ce culte comme cité, que la cité choisisse un par lequel le culte sera fait au nom de tous, donc en leur présence, avec l'agrément de tous, mais dans un geste où c'est un qui agit. Et c'est là que vient le prêtre. Le prêtre, c'est celui qui agit au nom de tous pour la cité, avec l'agrément de la cité, qui n'agit pas seul. Il n'agit pas seul dans son coin. Il n'agit pas dans son coin. Il agit comme mandaté par la cité. Alors, évidemment, si je regarde du point de vue naturel, dans la famille, qui est prêtre ? Point de vue naturel. Regardez, la religion naturelle. Le père ? Ou les parents ? Alors, c'est là où on va découvrir au point de vue naturel qu'il y aura des traditions différentes. Ce sera le père, ce sera la mère, patriarcal, matriarcal. Ça, c'est naturel qu'elles agissent. Quand vous regardez les musulmans, hein, c'est le père. Quand vous regardez le juif, c'est le père de famille ou le fils aîné. Et c'est qui agit au nom de la famille. C'est lui qui bénit la table. Et c'est naturel. C'est un geste de la famille qui, dans son chef, bénit, c'est-à-dire reconnaît que toute chose vient de Dieu et rend grâce à Dieu pour tous ses dons. Mais, vous voyez, c'est pas chacun dans son coin. C'est un qui agit et qui permet à tous de le faire dans l'unité de la famille. Quand vous regardez la cité, point de vue naturel, hein, il y a moins commode parce que c'est le maire, ou est-ce que ça va être un homme qui sera désigné, alors en général, ça sera un homme, ça sera un prêtre. Chez les tribus païennes, vous verrez, hein, on distingue le chef et le prêtre, celui qui est l'homme de prière, le sorcier. Celui qui agit au nom. Et puis au niveau de l'État, c'est le roi de Gaulle. Que tu faisais. Mais évidemment, nous on l'a toujours senti comme point de vue personnel. Mais au fond, il est nécessaire que le chef, comme chef, c'est pour ça, c'est la seule. Le code de droit canon a supprimé toutes les prérogatives qui étaient dans l'Église pour la place des fidèles, et il n'y en a qu'un qui a le droit de rentrer dans le cœur, c'est normal, c'est le chef d'État. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire reconnaître que le chef d'État, pas en tant qu'il s'appelle, pardon, Pompidou, Giscard d'Estaing, oui. Pas en tant qu'il est. Non, en tant qu'il est chef d'État. Ah, s'il vient en tant que chef d'État, ça vient. Ça veut dire, oui, parce qu'il est, il représente la nation, et représentant la nation, il fait un geste par lequel toute la nation reconnaît qu'il est normal, qu'il montre envers Dieu sa dévotion, sa religion. Voilà, ça c'est au point de vue général, disons philosophique. Le prêtre, vous voyez, le prêtre c'est celui qui est député pour un peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire ce prêtre ? Il va rendre un culte. Donc le prêtre, c'est son culte qui sera pour le peuple. Mais son culte doit être un acte intérieur, sinon ce n'est pas un acte de religion.
avec des astres extérieurs, parce que ça appartient à son être social, humain. Est-ce qu'il y a des questions là, avant qu'on avance? Oui.
Le mot en dessous de corps, ça
reste, pardon, alors appelons ça chose, des choses. Des choses qui vous appartiennent. Pardon ? Les dons, oui, ce sont des dons, de fait. Je les reconnais comme des dons. Mais je fais exprès de prendre une réalité qui est dans mon dominium, qui m'appartient. Ça veut dire que le sacrement sera plus un don. Oui. Alors, faisons attention, hein. Faisons attention. Là, je suis au point de vue philosophique, je ne suis pas encore au point de vue chrétien, premièrement. Hein. On va regarder ce que c'est pour le chrétien. Mais le prêtre doit faire un acte religieux. Sinon, il ne se passe rien du tout. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que ce culte ? S'il fait des actes extérieurs, en quoi Dieu est-il ? A-t-on reconnu notre justice ? Si l'État se sert d'un homme et lui demande « Toi, rends un culte en mon nom !» Il faut que ce soit un culte véritable. Oui ? Donc, certes, il y a des actes extérieurs, parce que sinon, ce n'est pas un culte public. Mais ces actes extérieurs supposent nécessairement des actes intérieurs. Dans l'Église, on dira « Il faudra au moins... » l'intention de faire ce que veut l'Église. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Sinon, vous voyez, ça devient extérieur. Il faut que ce soit un culte véritable. C'est-à-dire, il faut que celui qui est mandaté, il agisse dans son état de mandaté, mais il agisse en vérité, c'est-à-dire en rendant un culte.
Le prêtre là, ça n'est pas le prêtre catholique.
Non. Mais c'est très proche, hein. On va y venir. Tout le problème est de savoir, le prêtre regarde qui ? Alors c'est ça que je vais regarder après. Mais c'est le prêtre, d'une façon générale. Le prêtre est toujours pour un peuple.
On pourrait donner une autre terminologie.
Par exemple.
Plutôt moins ambigu par rapport.
Non, je fais exprès parce que c'est vraiment le terme générique. Le genre. Dans le genre, vous avez des espèces différentes. Hein? Alors, c'est sûr que le prêtre catholique, il ne sera pas député par le peuple, il sera choisi par Dieu. Presbytéroi. Ancien. Celui qui est l'aîné. Et celui qui a le plus de sagesse. Vous voyez, c'est le genre, prêtre. Le genre. Maintenant, comment, quel lien y a-t-il entre le genre, entre le prêtre et la cité ? Quel lien y a-t-il ? Est-ce que c'est la cité qui choisit son prêtre, quand on a une activité humaine ? Ou est-ce que il y a un ordre naturel ? Un ordre naturel ? C'est pas le petit dernier qui offre. Mais c'est le principe, c'est le premier qui offre, c'est naturel ou pas ? Est-ce qu'il y a un ordre surnaturel ? C'est-à-dire, c'est Dieu qui choisit. Ça, c'est des choses que nous devrions se poser. Bon, alors on se donne... 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'il faut avancer, hein.